Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
L'engagement en faveur de la paix continue. Le pape, lors de l'Angélus place Saint-Pierre ce dimanche, a exhorté les fidèles à dire non à la haine, à la violence, au mensonge. Qui suit Jésus ne doit pas s'attendre à participer à un cortège triomphal. Le pape François a également condamné le commerce illégal des armes. Le pape a placé cet Angélus dans la continuité de la veillée de prière pour la paix en Syrie, au Proche-Orient et dans le monde entier. Nombreuses étaient les personnes qui ont répondu à l'appel du pape. Nous entendrons le témoignage de deux sœurs africaines présentes place Saint-Pierre samedi soir. Toute l'église était mobilisée et même au-delà. Exemple avec la communauté de Thésée qui a prié devant une icône arrivée il y a quelques jours d'un petit village de Syrie. C'est ce que nous a confié le prieur de la communauté, le frère Aloïs. Dans la seconde partie de ce magazine, nous retrouverons l'invité du dimanche de Catherine Aubin. Il s'agit de la dernière rediffusion de cet entretien dominical. Nous réentendrons un moine bénédictin, le frère Luigi Gioia. Il nous parlera notamment de l'humilité. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Un week-end placé donc sous le signe de la paix au Vatican. Tout d'abord, samedi soir, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel lancé la semaine dernière par le pape François lors de l'Angélus pour une journée de prière et de jeûne en faveur de la paix en Syrie, au Proche-Orient et dans le monde entier. Simples fidèles, religieux, musulmans, juifs, autorités civiles, non-croyants, ils ont tous, pendant 4 heures, participé à cette grande veillée ponctué par des prières sur la paix des prédécesseurs du pape François, de prières tirées de poèmes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Récitation également du chapelet, des mystères joyeux, adoration eucharistique, la foule, chaque fois, a observé de nombreux temps de silence consacrés à la prière. Logiquement, ce dimanche midi, devant une foule une nouvelle fois considérable, le pape est revenu sur la soirée précédente. Il a remercié toutes celles et ceux qui étaient venus, mais il a surtout été très clair, soit avant la prière d'Angélus, soit après, l'engagement en faveur de la paix ne doit pas s'arrêter là. Il faut poursuivre donc nos efforts. Jean-Baptiste Cocagne.
Continuer de prier et de travailler pour trouver une juste solution au conflit fratricide qui déchire la Syrie. Le pape ne veut pas que les chrétiens baissent les bras et se contentent de la veillée de samedi. Il ne veut pas non plus que les autres pays du Proche-Orient soient oubliés. Le Liban, l'Irak et l'Égypte sont au cœur de ses préoccupations. Dans cette optique, le pape a invité les fidèles à mener la guerre contre le mal, à lutter contre ses séductions. Il les a exhortés à dire non à la haine fratricide, au mensonge, à la violence sous toutes ses formes. Il a aussi pointé du doigt la prolifération des armes et leur commerce illégal et de dénoncer ainsi les guerres dont les motivations sont plus que douteuses. Ne serait-ce pas pour vendre ces armes via ce commerce illégal, s'est-il interrogé. La lutte en faveur de la paix, qui a connu un retentissement fort samedi soir place Saint-Pierre, commence donc d'abord et avant tout dans nos cœurs et nos consciences, quand nous décidons de suivre vraiment Jésus, renonçant à nos biens et menant cette guerre contre le mal. Car, a expliqué le pape, en trouvant Jésus, les chrétiens ont trouvé le plus grand bien dans lequel toute chose trouve sa valeur.
Jean-Baptiste Cocagne. Et le pape, à l'issue de son message avant la prière de l'Angélus, a demandé aux fidèles de prier également la reine de la paix. Ce dimanche, en effet, l'Église célèbre la nativité de la Vierge Marie, une fête importante principalement chez les orthodoxes. À cette occasion, donc, le pape n'a pas manqué de saluer chaleureusement, à la fin de son commentaire de l'Évangile, les chrétiens d'Orient, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques. Il y avait donc foule place Saint-Pierre, samedi soir, je vous l'ai déjà dit. La veillée qui durait 4 heures a donc été ponctuée de moments de prière, soit pendant la récitation du chapelet, soit pendant l'adoration eucharistique. Un moment intense, plusieurs dizaines de milliers de personnes en effet réunies pour un même objectif, dans le silence le plus profond au cœur de la nuit romaine. Cette ferveur et cet élan pour la paix a été vécu par des personnes très différentes, parmi elles des sœurs africaines que nous avons rencontrées et qui témoignent de leur expérience en cette veillée.
Sans la paix, nous ne pouvons pas vivre. Donc c'est pour cela que nous sommes venus en grand nombre pour nous solidariser avec cette initiative parce que la paix est indispensable dans les familles, dans les communautés, dans l'Église et surtout dans les sociétés. Nous ne pouvons pas permettre encore une fois une autre guerre. Donc il nous faut faire tout ce que nous pouvons pour éviter la guerre. Si on commence, si on reste sur la violence, eh bien on continuera à... Ce sera une chaîne de guerre et de violence. Cependant, il nous faut plutôt une chaîne de paix.
Je suis très contente de notre peuple pour la prière de la paix dans le monde. Puisque dans tous les pays du monde, il n'y a pas la paix et le Christ est venu pour nous apporter la paix. L'initiative du peuple est très bien. Nous sommes très contentes pour que cette prière va apporter la paix dans le monde entier et surtout chez nous en Afrique. Le pape porte l'Afrique dans son cœur, puisque tous les problèmes de l'Afrique, le pape porte dans la prière. Et la seule solution dans des pays africains est la prière. Nous, les Africains, nous sommes très contents de voir l'importance que le Saint-Père nous accorde dans nos pays africains et dans nos situations.
La veillée de prière voulue par le pape a connu un retentissement mondial. Toutes les églises ont organisé leur propre veillée. Ce fut le cas ainsi à Paris, en la basilique du Sacré-Cœur, ou dans les églises syriennes, notamment à Damas. La communauté de Thésée, elle, très engagée normalement en faveur de la paix, espace de rencontre entre chrétiens de diverses confessions, n'a pas manqué évidemment de se mobiliser. En compagnie des pèlerins présents à Thésée ce week-end, le prieur, le frère Aloïs, a jeûné et prié devant une icône qui symbolise à elle seule l'engagement de l'Église en faveur de la paix en Syrie. Le frère Aloïs.
Nous avons reçu il y a quelques jours une icône qui est venu de près de Damas, d'un petit lieu, un village près de Damas, près de la frontière libyenne. Et nous avons mis cette icône dans l'église. Et les jeunes ici, de toute confession, qui sont ici à Thésée, sont très touchés de cet appel du pape. Et nous nous joignons à cela. Nous sommes heureux de pouvoir faire quelque chose, que la compassion ne reste pas seulement une pensée, un sentiment, mais vraiment... Une prière.
Prière, prier pour la paix, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire demander l'Esprit Saint qu'il soit proche des victimes, de ceux qui souffrent, et aussi qu'il inspire à ceux qui prennent des décisions, des chemins de paix. Et je pense que c'est crucial maintenant, à ce moment-là, demander cette inspiration de l'Esprit Saint.
Et vous pensez que ce message de prier pour la paix, d'appel à la paix, aura un écho auprès de ceux qui sont intéressés, les chefs d'État, ceux qui peuvent se mobiliser pour la paix dans les actions, parce que le pape, c'est par la parole.
Je suis sûr que cet appel et la veillée de prière que le pape fait a un écho dans beaucoup de cœurs des gens. Et nous ne savons pas dans quelle mesure c'est efficace pour ceux qui prennent des décisions politiques. Mais je suis très sûr que dans beaucoup de cœurs à travers le monde, cet appel résonne et va faire son chemin. Nous ne savons pas comment cet appel et cette initiative du pape sera efficace, mais j'en suis sûr. C'est de l'ordre de l'Évangile et de réunir toutes les personnes de bonne volonté au-delà de l'Église catholique et même au-delà des chrétiens. Je pense que cela va parler à beaucoup de cœurs.
Voilà, c'était le frère Aloïs, le prieur de la communauté de Thésée. Il était joint par Antonino Gallofaro. Voilà ce que l'on pouvait lire dans ce magazine sur cette veillée de prière pour la paix qui s'est déroulée samedi soir, place Saint-Pierre, en compagnie du pape François. C'était lui aussi un homme de paix qui s'est engagé très tôt pour bâtir une Europe qui ne connaisse plus jamais la guerre. Robert Schuman, à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, le diocèse de Metz a organisé une conférence à laquelle a participé le cardinal R2, archevêque de Budapest et président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Le cardinal a rendu hommage à ce démocrate chrétien français qui a mis sur les rails, en compagnie du chancelier allemand Konrad Adenauer et du président du Conseil italien Giuseppe De Gasperi, ce qui allait devenir l'Union européenne. Le cardinal en a profité pour parler de ce rêve de Robert Schuman via la situation des pays d'Europe centrale et orientale. Il a ainsi fustigé le capitalisme totalement libéral, sans protection efficace du bien commun, qui a favorisé l'augmentation du chômage et dans certains cas la survie de structures communistes ou la corruption, ce qui a pu nuire, selon lui, à la participation de ces pays dans l'Union européenne. Le cardinal est évidemment également revenu sur la pensée de Robert Schuman, qui considérait que la démocratie moderne doit son existence au christianisme, car c'est le christianisme qui a présenté la dignité de l'être humain même dans sa liberté individuelle. Et le cardinal Erdeux d'insister, en d'autres termes, la nouveauté de Jésus-Christ a beaucoup à voir avec l'idéal européen de la démocratie. Dernière rediffusion de l'été en ce qui concerne l'invité du dimanche. Je vous propose aujourd'hui de réécouter l'entretien que Catherine Aubin a eu avec le frère Luigi Gioia, un moine bénédictin. Il nous parlait de l'humilité comme manifestation de l'humanité. Après avoir passé 5 ans à Oxford, le frère Gioia a obtenu son doctorat en théologie patristique sur le De Trinitate de Saint-Augustin. Actuellement, il est professeur de théologie dogmatique dans la faculté de théologie de l'université Saint-Anselme à Rome. Parmi ses publications, on trouve de nombreux articles sur Saint-Bernard Ptolomei, le fondateur de la congrégation olivétaine à laquelle il appartient.
Frère Luigi Gioia, vous êtes moine bénédictin olivétain. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix ? Vous avez aussi écrit un livre sur votre fondateur, Bernard Ptolomei, qui lui insiste beaucoup sur l'humilité.
On devient moine bénédictin sans savoir trop dans quelle congrégation on entre en réalité. L'histoire m'a conduit quand j'avais 17 ans, dans un petit monastère dans le sud de l'Italie qui appartient à la congrégation du Mont Olivet. Et j'étais immédiatement fasciné d'abord par une personnalité spirituelle qui était là, un vrai père spirituel, et puis par la célébration de la liturgie. Et ce sont ces deux éléments qui m'ont séduit au début. Ensuite, c'est en entrant et en comprenant et en connaissant toujours mieux l'histoire, le charisme, la tradition d'un ordre, qu'on le choisit vraiment. Et je peux dire que plus j'ai connu la figure spirituelle humaine paternelle de Bernard Ptolomée, ce saint, ce moine qui est mort en 1348, plus j'ai lu ses lettres, plus j'ai choisi d'être moine olivétain. Et surtout à cause de cette humanité qui se manifeste sous la forme de l'humilité. Humilité, je pense que c'est l'équivalent d'humanité au sens fort du terme, c'est-à-dire conscience profonde de ce que c'est qu'être homme, de ce que cela comporte en termes d'ouverture à Dieu, désir de Dieu, mais aussi en termes de limitation, de pauvreté. Et je crois que la vraie humilité, c'est la vraie humanité. Voilà.
Comment est-ce que cette pédagogie de Dieu dont vous parlez à propos de Bernard Ptolomei, comment s'est-elle révélée dans votre vie ?
C'est toujours à travers, surtout à travers la vie communautaire. La vie communautaire a été et reste, je pense, l'école la plus importante de vie spirituelle, d'humilité. Dans une communauté, il est impossible de se cacher. On est exposé aux autres tels qu'on est. Et c'est une ascèse, c'est exigeant. La tentation de fuir, de s'éloigner, de s'exiler, de s'isoler est toujours très forte. Mais pour peu qu'on se laisse faire, qu'on s'expose, on accède à une vérité toujours plus profonde sur soi, sur la compassion, sur la miséricorde, et on s'ouvre toujours davantage aux dons que Dieu veut nous faire de lui-même. Je crois que la vie communautaire est vraiment celle qui façonne le plus ce que nous sommes.
Frère Luigi Gioia, vous avez écrit sur Bernard Ptolomei. Quel est le cœur de l'enseignement de votre fondateur sur l'humilité ? Qu'est-ce qui vous aide à vivre aujourd'hui ?
La chose principale, je crois, c'est que quoi qu'il en soit de notre vie spirituelle, quoi qu'il en soit de la profondeur à laquelle Dieu nous permet d'accéder dans la vie de prière, dans la communion avec lui, dans la foi, nous restons dans une solidarité totale avec l'humanité tout entière, avec toutes ses misères, avec toutes ces pauvretés, avec ceux qui ne croient pas ou avec ceux qui croient mal. J'ai le sentiment toujours plus profond que nous sommes exposés comme chrétiens, tout autant que les non-chrétiens ou ceux qui ne croient pas, à la non-évidence de Dieu. Nous sommes exposés à l'idolâtrie, à la tentation de l'idolâtrie, et nous savons très bien combien elle a de prise dans la vie chrétienne, sous la forme de la recherche du pouvoir, de la recherche de l'argent. Donc je crois qu'il ne faut pas ignorer, il ne faut pas sous-estimer ces éléments-là. Il faut être très lucide sur les idoles qu'on porte en nous, sur cette tentation constante d'athéisme qui reste enracinée en nous. Et je crois que la vraie humilité, c'est vraiment être en prise entièrement avec ces aspects de notre être, parce que c'est seulement à cette condition que notre prière devient de plus en plus authentique, que nous vivons une solidarité toujours plus profonde avec l'humanité et que nous accédons peut-être progressivement à cette compassion qui est la caractéristique vraiment fondamentale de l'amour du Père.
Frère Luigi Gioia, vous venez de parler de la prière. Qu'est-ce que la prière pour un moine bénédictin olivetain?
Pour moi, la prière, c'est certainement me mettre devant le Seigneur, m'exposer à son silence, parce que le Seigneur est silencieux dans la prière, accepter le défi d'entrer dans ce silence, et puis faire l'expérience dans la foi de l'amour de Dieu. Cet amour qui continue de nous aimer malgré nos misères, malgré nos pauvretés, malgré nos échecs. C'est l'expérience renouvelée chaque jour de ceci, qui est au fil du temps est devenu non plus un devoir mais un besoin. C'est cette expérience-là qui me pacifie, dans laquelle toutes les tensions, toutes les velléités, toutes les souffrances même parfois de la journée se dissolvent d'une certaine manière et qui me permettent de repartir frais, peut-être d'être plus en mesure de me laisser prendre, de me donner.
Autre de vos particularités, frère Luigi Gioia, c'est que vous avez vécu aussi pendant 5 ans à Oxford pour étudier saint Augustin. Puis-je vous interroger sur une phrase qui revient souvent ? Mon poids, c'est mon amour.
Mon poids, c'est mon amour. Le poids pour Augustin n'est pas ce qui nous conduit vers le bas, mais c'est ce qui nous conduit vers là où nous allons trouver notre paix. C'est la force de gravité qui nous conduit sur le sol sur lequel nous allons trouver nos racines, notre identité, notre paix. Et c'est l'amour, c'est le désir. Donc c'est ce quelque chose que Dieu a mis en nous et qu'il attise constamment par son esprit, par la parole, à travers la prière. C'est ce désir qui, si nous le laissons grandir, s'épanouir dans notre vie, va nous conduire là où nous allons trouver la joie véritable. Plus on se connaît, plus on fait l'expérience de sa pauvreté, de sa misère, plus on comprend combien à la fin on est incapable de tant de choses, on découvre ses limites au fur et à mesure qu'on avance dans les années. Je crois que de plus en plus on découvre que notre seul espoir d'atteindre une quelque sainteté, une quelque authenticité, une quelque honnêteté dans notre vie, notre seul espoir, c'est vraiment que le Seigneur puisse l'opérer en nous. Si ce n'est pas le Seigneur qui me tire, si ce n'est pas le Seigneur qui m'anime, qui me refait, qui refait ma jeunesse, comme dit le prophète chaque jour, je ne vais nulle part. Il est important de ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est une des phrases qui me frappe le plus dans la règle de saint Benoît. La bonne nouvelle, telle qu'elle a été résumée par saint Benoît, est vraiment celle-ci, que la miséricorde de Dieu est plus grande que toutes nos misères, que toutes nos pauvretés, et que même plus on fait cette expérience de misère, de pauvreté, plus on peut se jeter dans les bras de cet amour miséricordieux de Dieu. Je dirais ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu.
Frère Luigi Gioia, interrogé par Catherine Aubin, c'était l'invité du dimanche, un entretien diffusé la première fois le 18 novembre 2012. C'est maintenant l'heure de se quitter, merci de votre fidélité. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que notre page Facebook Radio Vatican en français. On se retrouve demain, même lieu, même heure.